Aujourd'hui, nous sommes le premier dimanche de l'Avent. Alors, je me suis dit que c'était bien qu'on reste dans le thème que nous impose le calendrier. Et je vous partage un thème en lien avec ça, avec cette préparation de Noël qui approche. Au lieu de vous lire un texte ce matin, je vais vous raconter un texte biblique. C'est-à-dire, je vais le raconter d'une autre manière, en prenant un autre regard. Et je le racontais en disant « je » à la place d'un personnage. Alors, ne cherchez pas dans vos Bibles, vous n'allez pas le trouver, mais vous allez le reconnaître. J'ai testé sur mon petit-fils, il l'a reconnu, à un moment donné, il a trouvé qui c'était. Il a mis du temps. J'étais prêtre à l'époque de cette drôle d'histoire. Et après de 80 ans, je peux dire que j'ai vu beaucoup de choses. J'ai assisté ce week-end à la mort de celui que j'ai vu naître il y a plus de 30 ans. J'ai assisté au procès de Jésus et à sa comparution devant Pilate. Pilate, il était nommé par César il y a 7 ans comme gouverneur romain. Son nom signifie en latin « armée d'une lance ». Tout un programme de gouvernement. Je n'ai pas confiance en lui. Il est capable de sanglantes répressions. Il a puisé dans le trésor du temple. Oh, il a essayé de faire libérer Jésus, mais impossible pour lui car il s'est fait coincer par les responsables religieux. Et comme il ne voulait pas perdre son poste, il était incapable de faire un choix. On a donc choisi pour lui. Jésus a été tué. On l'a pendu au bois juste la veille de cette Pâque, ce dernier vendredi. Mais revenons à cette naissance de Jésus. En fait, Jésus est né au temps d'Hérode le Grand, homme cynique et sanguinaire, que je n'aimais alors absolument pas. Il avait été nommé roi de Judée par les Romains. Et toute cette histoire a démarré avec l'arrivée des mages venus d'Orient. En effet, jusque-là, presque personne ne savait que Jésus était né. J'étais un des rares dans la confidence. Par contre, je me rappelle cette journée où les mages sont arrivés, des sages venus d'Irak. L'arrivée de cette caravane exotique au milieu de Jérusalem éveilla tout de suite la curiosité. Tout le monde se demandait bien la raison de leur présence. Très vite, la rumeur a enflé dans la ville. Elle s'est répandue dans toute la ville. Ils avaient fait des centaines de kilomètres car lors de leurs explorations astronomiques, ils avaient découvert une étoile qui annonçait la naissance prochaine du roi des Juifs. Ne m'en demandez pas plus, car ils mélangeaient observations astronomiques et astrologiques. Je n'ai rien compris quand ils ont tenté de me l'expliquer. Pour trouver le roi des Juifs, ils allèrent voir la seule personne qu'il ne fallait pas rencontrer, Hérode. En effet, Hérode était complètement parano. Il voyait des complots partout. Il faut savoir qu'il avait tué les membres de sa propre famille, dont certains de ses enfants. Quand on lui dit que le roi des Juifs est né et qu'on vient l'adorer, alors ce fut panique à bord. Il prit l'info tellement au sérieux qu'il fit tuer tous les petits-enfants de Bethléem de moins de 2 ans. A posteriori, je pense que son addiction au pouvoir était telle que l'idée même de la possibilité de cette naissance l'a rendu fou. Il s'était mis lui-même en concurrence avec ce nouveau-né. C'est quand même dingue quand on y pense. Les tueries, ça doit être un gène familial. Le fils actuel n'est pas mieux. Il s'appelle aussi Hérode et il vient de participer avec Pilate à ce procès inique contre Jésus. Comme si cela n'avait pas suffi qu'il fasse décapiter mon propre fils unique, il y a près de 3 ans. Excusez-moi, mais quand j'en parle, ma gorge se noue. En étant prêtre, j'ai bien connu les responsables religieux. À l'époque, ils étaient cultivés, intelligents, brillants même. Une connaissance qui me bluffait. Mais ils n'ont rien capté de ce qui se passait. Quand les mages leur demandent où devait naître Jésus, se souvèrent que tout Israël attendait, ils savaient exactement où étaient les textes et ont répondu sans hésitation. C'est à Bethléem. Et là, je me dis, c'est bon, c'est gagné, ils ont compris. Mais jamais ils n'ont voulu reconnaître Jésus comme fils de Dieu. Je crois qu'ils ont eu peur de perdre leur ascendant sur les autres. En effet, ils avaient du pouvoir sur le peuple grâce à leur connaissance et leur accès privilégié à Dieu. Ils ont eu peur qu'en venant à Jésus directement, on n'ait plus besoin d'eux. J'ai eu la chance de connaître Joseph. Je dois dire que j'avais beaucoup de sympathie pour lui, c'était un homme bien, disparu bien trop tôt. Quand sa fiancée Marie lui annonça sa grossesse, ce fut le choc absolu, la terre s'ouvrait devant lui. En effet, il n'avait pas couché avec elle, il attendait son mariage, il avait respecté à la fois la tradition et celle qui devait devenir sa femme, et la voilà enceinte. Son premier réflexe après le choc a été de rompre avec elle. En effet, c'était vraiment humiliant de penser que cet enfant était le fils d'un autre. Comment croire Marie qui lui assurait qu'elle n'avait pas couché avec un autre homme ? Vous me direz, mais comment sais-tu tout cela ? C'est simple. J'ai eu la chance de bien connaître Marie et Joseph. En effet, Marie était une cousine de ma femme. On avait des relations régulières avec cette branche de la famille. D'ailleurs, Marie, beaucoup plus jeune que ma femme à l'époque, aimait venir la voir, passer du temps, avoir des conseils de sa part. J'avais à l'époque un peu moins de 50 ans. J'ai moi-même eu un fils au même moment, celui qu'Hérode a tué, alors que ma femme était stérile. Un ange me l'avait annoncé, et vous savez quoi, je lui ai dit que ce n'était pas possible, vu l'âge de ma femme et sa stérilité. Du coup, cet ange m'a dit que je resterais muet jusqu'à sa naissance, et c'est seulement à sa naissance que j'ai retrouvé la parole pour donner son prénom, Jean, qui plus tard prendrait le surnom de Jean-Baptiste. Depuis ces 9 mois où aucun son n'est sorti de ma bouche, moi qui étais plutôt taiseux, moi qui pensais être trop vieux, pas assez intelligent, sans aucun pouvoir et sans vraie capacité, je me suis mis à parler. Et je ne me suis plus tu, car j'ai commencé d'y croire. C'est pour cela que depuis plus de 30 ans, je raconte cette histoire à tout le monde. Et je me dis qu'on n'est pas prêt d'arrêter d'en parler, surtout si en plus il vient de ressusciter. En effet, je tiens de sa mère, et Marie, elle vient de me l'annoncer ce dimanche soir. J'en ai encore les larmes aux yeux. J'ai oublié de vous dire, je m'appelle Zacharie, et ma femme, c'est Elisabeth. Le thème de ce message, c'est « Croire sans pouvoir ». Nous sommes dans le temps de l'Avent. Et quand nous pensons à Noël, nous pensons souvent à paix, joie, chaleur, le petit Jésus dans sa crèche, enfin vous connaissez tout ça. Hein. Mais le Noël biblique était vraiment très différent. Il y a plus question de pouvoir que de foi. Noël 2022, rien n'a changé. Tant d'hommes qui sont en lutte pour le pouvoir, qui sont en lutte pour plus de puissance, qui sont en conflit, en guerre, les uns avec les autres. Alors, quel pouvoir ? Croire sans pouvoir. Est-ce qu'avoir du pouvoir peut nous empêcher de croire ? Dans le mot « pouvoir », il y a un concept, une idée relationnelle. Parce qu'on retrouve l'idée d'autorité, de domination, de puissance sur quelqu'un. On n'a pas du pouvoir tout seul si on n'a personne en face. Il y a aussi une idée un peu différente, mais qui va aussi dans ce même sens, c'est une idée de capacité. Je peux faire, je peux le faire. Capacité sur les choses, sur les hommes ou sur les situations. À côté de ça, dans le mot foi, il y a l'idée de confiance en quelqu'un. Et on voit l'antagonisme. L'un contrôle le pouvoir, l'autre, la foi, fait confiance. On voit Hérode, on voit les responsables religieux de manière caricaturale dès la naissance de Jésus, ils ont peur de perdre leur pouvoir. Les pouvoirs politiques, religieux sont vraiment des ennemis de Jésus pendant toute sa vie. Le pouvoir peut vraiment être aussi un ennemi de notre foi. Notre ascendant, notre pouvoir sur les autres, notre pouvoir au travail, notre pouvoir dans nos couples, longtemps celui de l'homme sur la femme, notre pouvoir sur nos enfants, notre pouvoir au niveau financier, qu'est-ce que je peux acheter ou pas acheter, notre pouvoir même dans l'Église, comme responsable, autant de pouvoirs qui sont vraiment à grand risque pour notre foi. Car nous pouvons les considérer comme un but en soi. Mais vous allez me dire, moi je ne suis pas concerné par le pouvoir politique, religieux ou ne serait-ce n'importe lequel. Mais vous savez, parfois c'est beaucoup plus insidieux que ça. Joseph, face à la grossesse de Marie, dit finalement comment accepter le regard des autres quand ils vont la prendre. Il a tellement perdu de son honneur qu'il veut au moins sauver quelque chose des apparences en rompant les fiançailles. Il n'a pas de pouvoir, il n'a pas de richesse, il n'a pas de capacité, mais il a encore un sens moral. C'est un homme droit, intègre, et sa capacité qui lui reste, elle est morale. C'est le seul petit pouvoir qui lui reste. Alors il ne lui reste plus qu'une chose à faire, c'est se draper dans son honneur et quitter la scène. Et dire non à Dieu. Je ne veux pas, je n'épouserai pas Marie. D'autres diront, parce que je vis telle ou telle souffrance, tel problème dans ma vie, je romps avec Dieu. C'est le même mécanisme, vu la perte que j'ai subie. Il me reste mon honneur, mon libre arbitre. Et le seul pouvoir qui me reste, c'est de dire non. Je suivais quelqu'un qui, il y a quelque temps, avait tout perdu. Mais tout perdu, un peu comme Job. Et à un moment donné, je lui dis, mais toi, tu es comme dans un tunnel, et un jour, il y aura de la lumière, mais tu refuses d'avancer. Il me dit, oui, je refuse d'avancer. Je me suis même assis sur un tabouret là, je ne veux plus bouger. Parce que c'est la seule chose qui me reste, dire non, je ne bouge pas. C'est comme les enfants qui vous disent non à tout. Hein. On avait ce week-end des amis qui sont venus d'Allemagne, une petite de 2 ans, c'était non à tout. Voilà, la seule chose à laquelle elle n'a pas dit non, c'est qu'on lui a proposé du chocolat. Il y en a d'autres, enfin, comme Zacharie, qui utilisent leur absence de pouvoir. Zacharie, il est vieux. Ou leur incapacité, comme raison pour ne pas croire. Zacharie, c'est vraiment tous ceux qui disent « Je ne peux pas, je suis trop petit, je suis trop faible, je suis trop vieux, je suis trop tout ce que vous voulez. Je ne peux pas, je ne peux plus, c'est fini. » C'est tous les « je ne peux pas » ou « je ne peux plus ». Bref, ce n'est pas possible. Comme si notre foi était liée à nos capacités. Ma femme ne peut pas être enceinte, on est trop vieux, donc ce n'est pas possible ce que tu nous dis. Quel pouvoir avons-nous? Comment est-ce que nous l'utilisons? Est-ce que mon petit pouvoir, ce petit pouvoir qui me reste et que j'aime entretenir, est-ce qui m'empêche de croire? Est-ce que nous sommes au point où nous disons « je ne veux pas, je ne peux pas » En fait, Noël, c'est lâcher prise. Lâcher prise, c'est laisser tomber notre petit pouvoir pour apporter ce que l'on est à Dieu, et Dieu change le but, change la destination de nos pouvoirs. C'est lâcher son pouvoir pour servir. Hérode, les responsables religieux, refuseront de lâcher leur pouvoir pour servir. Les mages, eux, vont lâcher tout et vont faire des centaines de kilomètres pour suivre une étoile et pour déposer leur cadeau aux pieds de Jésus et l'adorer. Symboliquement, mais quelle différence, quoi. Joseph, lui, qui était prêt à se draper dans son honneur, est rattrapé par un ange qui lui ordonne, ou l'encourage plutôt, à continuer avec Marie. Et pratiquement, il doit abandonner pas mal de prérogatives qu'il considérait comme normales. Son pouvoir de chef de famille est vraiment mis à mal dans cette histoire. Hein. Il ne contrôle plus rien. En fait, c'est la nature du pouvoir qui va changer. En fait, Joseph va accepter de ne plus avoir un pouvoir qui domine l'autre, mais il va mettre le peu de pouvoir qu'il a, le peu de capacité qu'il a pour donner, pour servir et pour aimer. Le pouvoir que Dieu va l'aider à développer, c'est le pouvoir d'aimer sa femme et d'aimer son fils. Et c'est une sacrée capacité que Dieu lui donne là. Aimer ce fils qui n'est pas de lui. Accepter de faire confiance à sa femme, malgré toutes les évidences qui prouvent le contraire. Abandonner ses droits et même les devoirs de sa religion, parce que Marie méritait dans la loi juive la lapidation. Abandonner ses principes pour obéir à Dieu et apporter compassion et bienveillance à Marie. Jésus dira lui-même, quand on lui reprochera de s'intéresser aux gens peu recommandables, il va dire « Apprenez ce que signifie « je veux la miséricorde et non le sacrifice ». C'est-à-dire « je veux la miséricorde et non la manière religieuse de faire les choses, et non la religion ». Lâcher ses droits, c'est dire non à la colère, non à notre envie de bouder, non à la haine et non à la rancune. Ça vous est peut-être jamais arrivé, moi je sais que c'est des choses que je dois réapprendre chaque fois. Lâcher mes droits à me fâcher. Zacharie, c'est quelqu'un qui connaît Dieu depuis longtemps. Des années qu'il sert comme prêtre, des années qu'il croit, et sa foi s'est ratatinée, rabougrie, on dirait. Il n'y a plus beaucoup de vie dans sa foi. Il est vraiment dévoué à la tâche. Il n'y a pas de souci. Il est présent pour le service, il est là. Mais quand un ange vient lui annoncer une extraordinaire nouvelle, avec un fils qui sera non seulement un fils, déjà ça c'est incroyable, mais en plus qui sera un sacré réformateur, il aura la puissance des plus grands prophètes avec Élie comme comparaison. C'est ça qu'on lui annonce à Zacharie. Ton fils Jean-Baptiste, voilà ce qu'il va être. Il va préparer le chemin d'un certain Jésus. Dieu, à aucun moment, ne compte sur les capacités de Zacharie. Et pourtant, Zacharie répond à Dieu, « Si moi je ne peux pas, alors c'est impossible à toi, Dieu. » C'est quelque part une forme d'orgueil. Hein. Si je n'ai pas les capacités, tu ne peux pas. Comme si Dieu avait besoin de son pouvoir et de ses capacités. Lâcher nos incapacités, c'est tellement nécessaire parce que souvent on les met en avant pour masquer notre incrédulité. « Tu n'as pas cru à mes paroles, lui dit l'ange. » Et l'ange ne répond pas à l'interrogation de Zacharie sur ses capacités. Il ne lui dit pas « Mais si, tu es capable !» Il dit « Non, tu ne crois pas à mes paroles. » Il lui répond sur la foi. Alors le pouvoir de Zacharie, c'est enfermer Dieu dans une boîte. C'est décider des pouvoirs de Dieu, décider entre ce qui est possible et ce qui est impossible. Mais qui sommes-nous pour dire « Ce n'est pas possible ?» Le pouvoir de Zacharie, c'est présenter ses incapacités comme une impossibilité. Je ne peux pas, donc tu ne peux pas. Le pouvoir de Zacharie, c'est garder le contrôle des événements. Je préfère pas avoir de fils, mais c'est moi qui gère. Et se dire, finalement, je ne peux pas croire. Et nous sommes appelés, non seulement à lâcher nos droits, mais à lâcher notre incrédulité pour faire confiance. Pendant 9 mois, Zacharie ne pourra dire un mot. Les 9 mois de la grossesse, 9 mois de réflexion, 9 mois d'écoute, 9 mois pour accepter l'impossible et passer de son « je ne peux pas » à « je crois ». À la naissance de son fils Jean-Baptiste, il va retrouver l'usage de la parole, il va annoncer la venue de Jésus qui doit naître 6 mois plus tard. Il va dire les mots suivants que je vous lis dans Luc 1 au verset 68. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Et je lis au verset 69, il nous a suscité un puissant sauveur, et verset 71, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis. Le juif va traduire, il nous a suscité un puissant sauveur qui est venu chasser les Romains. Il se trompe d'ennemi, le juif. On veut toujours chasser nos ennemis extérieurs pour reprendre le pouvoir et mieux les dominer, en fait. En fait, c'est un sauveur qui vient nous délivrer de nos ennemis, pas forcément extérieurs, mais avant tout déjà de nos ennemis intérieurs. Nos incapacités mises en avant, qui en fait sont des incrédulités, nos envies de dire non. Bref, tout ce qui prend la place de notre foi. Et Zacharie explique alors le but de la naissance de ce sauveur. Non seulement il veut nous délivrer de nos ennemis, mais au verset 79, il ajoute « Il est venu pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, et pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. » Tant que nous sommes dans le contrôle, nous pouvons rester assis dans les ténèbres, assis sur notre tabouret, en disant « Non, je ne bouge plus. » Assis sur nos droits, sur notre incrédulité, tout ce que vous voulez. Et Jésus est venu pour éclairer, apporter sa lumière dans nos ténèbres, dans nos temps tellement difficiles. Parce qu'ils sont là, les ténèbres sont toujours là, il y a juste de la lumière en plus. Il est venu pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Et à nous de faire confiance à cette lumière. Le pouvoir qui domine, lui, il agit dans les ténèbres, parce que comme ça, il garde le contrôle dans les ténèbres. Le pouvoir qui sert, il agit en pleine lumière. Et il nous aide à marcher en cherchant à faire la paix avec Dieu, avec les hommes. C'est le véritable pouvoir qui nous est donné. Si vous avez bien lu le verset 79, je le relis de Luc 1, « Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix, c'est à nous de marcher. Il éclaire la route. » Il ne marche pas à notre place. Il dirige nos pas dans le chemin de la paix. Alors Dieu utilise le pouvoir d'une manière très surprenante. Il n'utilise pas son épée. On le voit avec l'épisode au jardin de Gethsémané avec Pierre. Mais il utilise sa parole. Il n'est pas venu dans un palace. Il est venu vivre avec nous, au milieu de nous. Il n'avait pas d'armée pour défendre son pouvoir. Mais il a donné sa vie pour nous donner du pouvoir. Il ne dirige pas au travers de son pouvoir, qui est pourtant tout puissant, mais au travers de sa lumière, pour diriger nos pas. Jésus ne nous propose pas de nous enfermer dans un système religieux. Jésus nous demande de lâcher nos croyances sur lui et de surtout pas l'enfermer. Jésus, c'est l'exemple parfait de l'abandon du pouvoir, de ses prérogatives pour se mettre au service des hommes. Je vous lis Philippiens 2, 6, 6 à 9. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Quel pouvoir, lâcher prise, et pour terminer, quel choix avons-nous devant nous ? Entre croire ou garder le pouvoir, parce que 30 ans après la naissance de Jésus, rien n'a changé. Le pouvoir politique est représenté par Pilate, le pouvoir religieux par tout le système des religieux, cette caste-là. Et dans le texte que je vous ai raconté, nous sommes dans le week-end de la crucifixion et de la mort de Jésus. Zacharie raconte tout ce qu'il a vécu à ce moment-là. Et vous savez, la couronne de l'Avent, qui évoque le temps de sa naissance, la saison de sa naissance, s'est transformée en couronne d'épines, qui évoque plutôt la raison de sa naissance. On n'est plus dans la saison de la naissance, mais la raison de la naissance. Pourquoi il est né? Et Pilate va appeler Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» C'est dans Jean 18. C'est le même souci qu'Hérode. Pilate est obnubilé par la question de son petit pouvoir. Il va dire à Jésus « À moi, tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et j'ai le pouvoir de te crucifier ?» Et Pilate, il a le pouvoir de dominer, d'abuser du pouvoir. Pilate a le pouvoir de relâcher ou de crucifier Jésus, on sait ce qu'il en fera. Et pour accentuer la pression, les Juifs vont lui dire à ce moment-là, « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. » C'est Jésus ou César. Et César, c'était le symbole du pouvoir absolu. C'est Jésus ou le pouvoir. Les responsables religieux, Hérode, Pilate et tant d'autres, ont choisi César et sont restés assis dans les ténèbres, en serrant leur petit pouvoir dans leurs mains. C'est un peu comme un enfant qui ne veut pas donner un vieux jouet qu'il a dans sa main alors que toute la vie lui appartient, alors que toute la maison de ses parents lui appartient. Il est simplement obnubilé par ce vieux jouet qu'il a dans la main. D'ailleurs, Pilate, en se lavant les mains, il a fait un choix contre. Il n'y a pas d'abstention possible. Et d'autres ont choisi Jésus. Joseph a laissé tomber ses droits, Zacharie ses incapacités, son incrédulité, les mages, leurs connaissances, leurs richesses, les bergers, ils ont lâché les troupeaux, ils vont voir Jésus en se retournant, et quand ils se retournent de cette visite, ils vont louer Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu. Je pense à Marie, mère de Jésus, à l'annonce de sa grossesse par un ange. Malgré tout ce qui se passe dans sa tête, elle va dire « Je suis la servante du Seigneur ». Et Jésus, le jour de sa mort, devant Pilate, va donner la raison de sa naissance. Il met tout en pleine lumière face à un procès qui est totalement truffé de mensonges. Il va dire dans Jean 18, 37, « Voici pourquoi je suis né et voici pourquoi je suis venu dans le monde, pour rendre témoignage à la vérité. » Et voilà comment il veut nous éclairer. Rien que ça, pas plus. Et si notre raison d'être, comme pour Jésus, notre nouvelle naissance, la raison de notre nouvelle naissance n'était que ça, vous auriez le maximum. Nous sommes nés pour rendre témoignage à la vérité. Et il ajoute, Jésus, quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Et Pilate va continuer en disant, mais qu'est-ce que la vérité? Il se trompe, il ne veut pas voir Jésus couronné. Devant lui, la vérité, c'est juste une philosophie, une religion. La vérité, c'est pas possible, cet homme debout devant lui, Dieu lui-même. C'est la question que j'ai pour vous ce matin, que j'ai pour moi. Quel choix faites-vous dans votre quotidien? Jésus ou César? Quelle couronne voulez-vous? Quel choix faites-vous entre la foi et votre pouvoir? Est-ce que vous êtes prêt? Parce qu'il n'y a pas d'autre choix dans la vie chrétienne, c'est lâcher son pouvoir pour faire confiance à Jésus. Et on doit le refaire régulièrement. Quel choix faites-vous entre être assis dans les ténèbres ou dirigé sur le chemin de la paix? Seigneur, nous te remercions. Et je te remercie parce que tu es là dans nos vies et dans nos cœurs. Je te remercie parce que tu nous donnes la possibilité de lâcher le moindre parcelle de pouvoir que nous croyons encore avoir pour croire en toi, pour te faire confiance, mettre notre main dans la tienne et avancer sur ce chemin de la lumière afin d'être les témoins de la vérité comme notre Maître et notre Seigneur Jésus l'a fait en venant sur terre. C'était la raison de sa naissance. Et je te prie que ce soit la raison de notre nouvelle naissance. Lâcher ce dont nous n'avons pas droit pour te suivre et te faire confiance. Amen.